Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine 100% OGC Nice Copéglon. On respire, tout va bien, l'OGC Nice restera bien dans l'élite l'année prochaine grâce à sa victoire 4-1 face à l'AS Saint-Etienne lors du barrage retour Ligue 1, Ligue 2. Jonathan Clauss, Kyle Boudache et Eli Wahi par deux fois entrecoupés du pénalty venu de nulle part de Zorico et David Ashvili ont permis au gym de se maintenir en Ligue 1. Pour m'accompagner ce soir dans Copéglon, rallongé en plus qu'à 20h et en plus casting All-Star ce soir, j'ai la Dream Team autour de moi et on commence avec le fidèle des fidèles, Nico Nanino, qui est avec nous pour la salut. Dernière de ce soir.
Bonsoir. Salut Sam, bonsoir à tous. J'ai mis un petit polo vert pour rendre hommage aux Stéphanois qui vont rester invités la saison prochaine.
Merci beaucoup d'être avec nous, Nico. On remercie également Maxime Tillet, journaliste à AMC Sport. Bonsoir Maxime.
Salut à tous. Polo vert aussi, pur hasard, mais polo vert quand même.
On chambre les Stéphanois ce soir, on vous le dit d'entrée sur BFM Nice Côte d'Azur. Et puis présentateur emblématique, c'est réducteur. Sincèrement, vous reconnaissez le premier visage de cette émission entre 2021 et 2023, animateur sur TV Monaco. Bonsoir Seb.
Bonsoir Sam, bonsoir à tous, ravi d'être là. Soulagé, tu l'as dit. Il était temps.
Il était temps. Il y aura la sulfateuse ce soir, c'est quoi,
On va se calmer. Après, il faut tout raser et tout reconstruire. Donc la sulfateuse, elle a bien servi. Mais maintenant on construit.
Maintenant, on construit, effectivement. Et puis, Stéphane, supporter de OGC Nice, est avec nous.
Bonsoir à tous. Ravi aussi.
Tout va bien.
Pour la dernière soulagée, oui.
Un gros ouf. Il y a plus de sourires que lundi dernier.
Oh là là. Étrangement.
La saison était horrible. La dernière fois que j'ai vu, il avait les cheveux. T'imagines les soucis des supporters? Et moi, regarde les cheveux blancs. Ça vient de là.
On a tous pris un petit coup. Ouais,
j'ai pris 10 ans cette année.
Au sommaire de cette émission, on va d'abord le débrief évidemment du match de barrage retour entre Nice et Saint-Etienne, le 4-1 en même temps, pas le barrage aller, parce qu'on n'a rien à dire dessus. En premier lieu, et puis ensuite la deuxième mi-temps de Copéglon avec les tops et les flops de cette rencontre et les tops et les flops globaux. C'est un grand conseil de classe cette émission ce soir. Et puis deux focus pour le prix d'un. Les deux consacrés à la saison prochaine. Le premier, il sera question de Geoffrey Moncada, le futur, ou quasi, on est quasiment sûr, directeur sportif de l'OGC Nice. On prendra en visio avec nous Carlo Pellegatti, en visio, journaliste italien, suiveur du Milan. Le deuxième sur la course à deux pour reprendre le banc du gym, Alexandre Dujeu ou Didier Digard tiennent la corde. Laquelle de ces deux options préféreront mes invités? Réponse dans quelques instants, dans le dernier épisode de Copéglon. On y va. Nous, on va prendre la direction tout de suite de l'Alliance Riviera, vide, pour voir ce qui s'est passé entre Nice et Saint-Etienne. La première délivrance, elle intervient lors de jeu, touche aux ailes de corner de Mendy, ballon prolongé jusqu'à Jonathan Clauss qui ouvre le score. Mais il était écrit que cette saison allait être difficile jusqu'au bout. L'Avar suggère à Monsieur Buc qu'il siffle un pénalty sorti de nulle part, égalisation de David Ashvili. Et ensuite, Kyle Boudage pour le 2-1 dans la foulée. Eli Wahi pour son doublé à la 87e et dans le temps additionnel avec un petit piqué pour sceller la victoire du gym 4-1 au bout de son 52e match de la saison, commencé le 8 août dernier. L'OGC Nice valide son maintien en Ligue 1. Et là, avec ce match-là, Nico, et notamment ces 20 dernières minutes, on respire.
On respire, mais ce match, il ressemble tellement à la saison qu'on a vécue. De l'ennui par moment, de la crispation, de la délivrance, mais en fait non, parce qu'il y a des erreurs d'arbitrage qui sont fatales. Et puis finalement, malgré tout, il faut le dire aussi, du caractère, on aurait pu sombrer. Et je pense que ce but de Kyle Boudache, là, il fait énormément de bien à la fois au score, mais surtout dans les têtes, parce qu'il ne permet de pas trop douter longtemps. Et au final, enfin, une issue positive. On a dû attendre le 29 mai pour avoir des émotions positives cette saison. Donc on va prendre quand même ce qu'il y a à prendre, mais ouais, repartir ce débat scène, c'est primordial.
Max, ouais.
On a rarement vu cette saison de Nice se relever face à des vents contraires, à chaque fois ça sombrait. Et là, pour le coup, quand ils arrivent, ils égalisent avec David Ashvili sur ce pénalty tombé du ciel.
C'est super.
Tu dis, oh là là, comment c'est. Et derrière, dans la foulée, ça marque, ça enchaîne, serein, au caractère, en maîtrise. Donc c'était surprenant, mais tant mieux, ça arrivait au meilleur des moments.
Face à Blozas, hein, on le rappelle quand même.
Vous avez été particulièrement déçu de voir la performance.
Non, mais après,
de
on va dire que le mec qui voit le verre à moitié vide à chaque fois. Non, ouais. Je suis très heureux, évidemment. Mais c'est vrai que je l'avais dit d'ailleurs, je pense, il y a quelques mois, quand vous aviez eu la gentillesse de m'inviter, mon cher Samuel. J'avais dit que l'OGC Nice allait certainement devoir compter sur les autres pour se maintenir. Je pense que aussi bien que pendant la saison, d'avoir eu la chance d'avoir Metz et Nantes dans un bouillon pas possible jusqu'au bout, et qui ont manqué parfois de réussite, je pense à Metz aussi qui a fait des bons contenus et qui n'a pas été récompensé, et là sur ce barrage de tomber contre le pire Saint-Etienne de la décennie, je pense, voire plus, ça a été une chance pour l'OGC Nice. Après, ils ont fait le job, heureusement, j'ai envie de dire, mais c'est sûr qu'après le premier quart d'heure, on en discutait juste avant de rentrer sur ce plateau, j'en ai pas large, vraiment.
Ouais. Steph, vous étiez déjà mis d'ailleurs vous en mode Ligue 2 avant ce match retour. Est-ce que vous vous êtes dit, bon, allez, Boulogne-sur-Mer,
pour Rodez, je ne pensais même pas. J'ai connu ça, je ne veux pas y penser.
C'est vrai, ce but refusé sur
par rapport à la saison qu'on a fait cette année.
Et attention, le poteau aussi de Stassin de mi-temps.
Tout à fait. Après, le penalty est assez généreux. Le pire, c'est qu'il y a une faute sur Dante. Un bon coup de coude, je pense qu'il va, quand il va l'avoir la VAR.
Bien sûr. Je pense pour moi, quand il va voir, il va voir pour le rouge.
Je pense qu'il y aura la VAR pour le coup de coude sur Dante. Bien et sûr. Il nous sort un pénalty.
Et là, il y a un autre angle. Il y a un bras, on ne sait pas d'où il sort. Il y a le ballon qui lui tombe dessus.
Moi, la caméra frappard.
cette année, les joueurs de Nice n'ont pas été bons. Mais je pense que tout a été fait pour qu'on descende. Bon, on n'est pas descendu. Heureusement.
Il a raison de le dire, parce que franchement, je ne veux pas rentrer dans le côté oui, petit, mais à chaque fois, tout le monde veut du mal à l'OGC Nice. Et cette année, plus que jamais, la France du foot voulait battre l'OGC Nice. Parce que Saint-Etienne en face, parce que Lens en finale de Coupe de France, que c'est toujours génial pour le football français de chanter les corons. Eh ben non, Nice est toujours là. Qu'est-ce que c'est dommage. Et ouais, Nice va encore emmerder quelques personnes la saison prochaine. Et rien que pour ça, franchement, moi je suis ravi.
Non mais c'est très vrai, il y a eu un traitement au niveau de l'arbitrage qui a été scandaleux. Les statistiques le prouvent, mais également médiatique. Et je pense que l'OGC Nice, il va falloir aussi y penser à tout ça. Et à l'avenir, pas ouvrir la porte à n'importe qui. Parce que je trouve le traitement du club cette saison, il a été mais scandaleux. On a entendu à longueur de journée les supporters qualifiés de fachos, de nazis. Mais c'est... Et on a banalisé ces termes-là. Moi aujourd'hui, quand je dis que je suis supporter du gym, je suis qualifié de nazi ou de facho parce que je suis supporter du gym. Je trouve ça scandaleux. Ça ne devrait pas exister. Et j'espère que le club saura se montrer un peu plus dur à l'égard de ces médias-là parce que c'est pas normal.
Ah, mais quand le club commence à l'ouvrir, il prend pire que ce qu'il a pris avant.
En appel, ouais.
En appel. Donc ça aussi, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dites-le. Si jamais il y a un souci avec l'OGC Nice, quand on voit ce qui s'est passé à Nantes sur la dernière journée où le match s'est arrêté.
Au bout de 20 minutes.
Et que Nantes n'a pas de point de sursis, pourquoi l'OGC Nice? Alors, je ne suis pas en train de dire c'est génial, ils ont bien fait d'envahir le terrain à la fin du match. Mais pourquoi? Enfin, il y a deux poids, deux mesures. Et là, il n'y a pas besoin d'être supporter niçois ou peu importe. On le voit, ça saute aux yeux.
Et l'OGC Nice n'en déplaise, sera en Ligue 1 l'année prochaine aux autres. On va voir la composition d'équipe de Claude Puel, mais si on va se recentrer un petit peu sur le jeu avec ce coup de poker tenté par Claudio Puel. C'est la titularisation de Tom Louchet. C'était la principale prise de risque de Puel avec la quatrième titularisation aussi de Djibril Koulibaly cette saison. C'est vrai, il faut le reconnaître, Max, Claude Puel s'était trompé avec Gouveia au match aller. Là, il a rectifié le tir dans ce 11 de départ et aussi en cours de rencontre.
Il s'était trompé avec Gouveia, avec le système, mais bon, c'est du passé.
Numéro 10.
C'est vrai qu'il a été plus inspiré sur ce coup parce que Tom Louchet a fait son match. Il a dû aussi s'adapter en cours de rencontre parce qu'on a parlé un peu d'arbitrage, mais en deux mots, Melvin Barre aussi ne peut pas revenir des vestiaires parce qu'il se fait découper et il n'y a rien du tout, il n'y a même pas faute.
Et Louchet était meilleur une fois qu'il était passé, je trouve.
C'est pas mal. Récupération, projection, ça a été intéressant. Et c'est l'avantage d'avoir ce type de profil qui peut jouer un petit peu partout. Il avait été diminué ces derniers temps, on va dire, et ça l'a empêché d'enchaîner. Puis aussi, ça permettait d'avoir sur le banc, par exemple, un Sofiane Diop qui, pour le coup, a fait une bonne entrée, et d'avoir globalement les entrants, comme avec Kael Boudache aussi, ont été bons. Donc, pour le coup, franchement, au niveau du coaching, il a vraiment fait un très bon dernier match sur le banc du gym.
Ouais, la blessure de Melvin Barre, pas un contexte extraordinaire hein, pour Claude Puel à la fin de la première mi-temps. Il l'a raconté en conférence de presse, on l'écoute.
On a un scénario où on n'est pas extraordinaire, notamment dans l'entame, dans cette première mi-temps. Il faut changer deux joueurs sur blessure. Et vraiment, on fait, je pense, une superbe deuxième mi-temps. Et ça, et pour une fois, ça nous a souri. Mais quand je dis ça nous a souri, on a provoqué aussi. On est allé chercher les choses et on s'est lâché. Et c'était le maître mot par rapport à notre première séquence à Saint-Étienne où on était resté dans nos petits souliers. Donc c'est facile à dire, de se lâcher, mais il faut le faire, il faut entreprendre et c'est ce qu'ils ont fait.
Le tacle assassin de Denis Sapia sur Melvin Barre, c'est rouge tous les jours, Steph.
C'est rouge.
Pas ce jour-là.
C'est rouge.
Pas ce jour-là.
100 fois dans l'année. Mais oui,
parce que si Saint-Étienne monte en Ligue 1, c'est sympa pour la France du foot.
On peut aussi rajouter déjà sur le match aller le coup de coude sur Boudaoui au bout de 5 minutes qui est resté KO quand même.
Le pénalty non sifflé sur Opong. Voilà.
Au match aller.
Oui, au match aller. Donc oui. Après le rouge sur Bar et après le coup de coude non sifflé sur Dante qu'on a eu un pénalty contre nous. Ça c'est pour clore le débat arbitrage.
Arbitrage, effectivement. Il y a deux coups du sort dans cette mi-temps. Donc d'abord la blessure de Melvin Barre et puis aussi celle de Julien Le Cardinal qui a fait beaucoup de mal à la défense de l'AS Saint-Etienne. On va écouter d'ailleurs Philippe Montagnier sur ce point parce qu'il sait qu'avec la rentrée de Mickaël Nadé, il a perdu beaucoup défensivement. On l'écoute.
C'est pas facile pour Mika de rentrer. C'est vrai que cette charnière, depuis trois matchs, elle n'avait pas pris de but, mais il a été au bout du bout et il ne pouvait plus jouer. Donc, mais c'est aussi, voilà, c'est tout un groupe et voilà, ça n'a pas été facile pour Mika de rentrer sur ce match-là face à aussi Wai, qui est pour moi un joueur très talentueux. Et c'est fait partie des paramètres qui nous ont. Empêcher de rivaliser jusqu'au bout avec Nice.
On a la sensation que ça aurait été plus dur avec Julien Le Cardinal en seconde mi-temps, Nico.
Bah avec du recul, je me demande même si c'est pas le tournant du match parce que Saint-Etienne était beaucoup plus solide avec Le Cardinal sur le terrain et quand Mickaël Nadé est rentré, il y avait eu des espaces qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent en deux confrontations. Et Livoy a su en profiter et donc ouais, et franchement la rentrée de Mickaël Nadé en tout cas fait beaucoup de bien au gym.
L'ancien Brestois qui s'est exprimé en conférence de presse d'après match, on va voir ses propos tout de suite. C'est catastrophique, c'est le seul mot que je retiens ce soir. Je ne comprends pas comment on a pu avoir deux visages aussi différents entre les demi-temps. Il fallait faire le boulot avant. C'est vrai, Seb, que la montée de Saint-Etienne, elle se joue certainement à l'aller devant les 40 000 de Geoffroy Guichard.
Non, mais la montée de Saint-Etienne, elle se joue avant dans la saison. Oui, c'est ça. Ils se sont loupés sur leur fin de saison. Ils ratent la dernière ligne droite. Et c'est ça qui est terrible.
Trois matchs d'affilée.
Et voilà. Donc, cette équipe, en tout cas, de ce qu'on a aperçu en Ligue 2, parce que je vous avoue pas avoir regardé tous les matchs de Saint-Etienne, vous m'excuserez, c'est clairement pas barragiste qu'elle aurait dû se retrouver. Elle aurait dû monter avant. Maintenant, voilà, ils ont loupé leur fin de saison, ça arrive. Et tant mieux pour l'OGC Nice, qui, encore une fois, je le répète, est tombé sur le meilleur adversaire pour pouvoir se maintenir.
Dernier mot de ce barrage aller avec les scènes de liesse côté OGC Nice sur les célébrations. D'un côté, on a eu l'impression de voir un groupe uni, soudé, quand, on le sait, le vestiaire était particulièrement flammé cette saison. Alors Max, est-ce qu'il y a eu peut-être un mini déclic entre Lens et Saint-Etienne pour se remettre un petit peu la tête à l'endroit dans la cohésion? Finalement, ce sont les circonstances qui ont fait que tout le monde s'est un peu...
C'est surtout les circonstances, ouais, voilà. Le soulagement, la libération. Ça a aussi été l'occasion de célébrer Dante à la fin pour voilà, son dernier match. Alors, c'est évidemment pas ce que lui aurait souhaité, ni même nous pour lui, parce que franchement, c'était triste de le voir sortir comme ça à la sur ce coup de coude. Il se rend même pas compte que finalement, en fait, il y a un pénalty qui est accordé, il a la bouche en sang. Et derrière, il y a le soulagement. Donc, c'est une joie globale pour lui, pour le club, pour le vestiaire, et c'est vrai que ces images, elles sont marquantes. On les a vues avec Claude Puel, qui se fait bouleverser par chacun de ses hommes sur chaque but. Mais c'était important aussi, parce qu'il est venu, c'était pas une mission évidente, il est sorti de sa retraite en quelque sorte, et il est venu aider le club. Ça n'a pas été facile tout le long, on parle encore de son coaching il y a quelques instants, mais pour le coup, voilà, il y a eu un soulagement à l'arrivée.
Et c'est bien ces célébrations, ouais. Parce que l'image avec Sofiane Diop, ouais. C'est celle-ci.
Est-ce que vous voulez la réaction?
Je veux la voir.
Après ce contact avec Sofiane Diop.
Parce que c'est quand même la seule fois de la saison où Diop a été au contact, alors je voudrais en parler. J'aimerais bien voir.
On écoute Claude Pelle tout de suite.
J'ai du mal à démarrer maintenant. Et j'avais pas les crampons. Et puis après, c'est Sofiane qui m'est rentré dedans. Enfin bon, il y a eu plusieurs péripéties. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de courir après, quoi. Il y avait Vaïd qui courait comme ça. Quand il y avait un but. Mais moi, ça m'arrive peu souvent. Mais c'est la hauteur de tout ce qu'on peut ressentir, de frustration, de problèmes qu'il faut résoudre au quotidien.
Seb, vous m'aviez dit avant la finale de Coupe de France, oui. On va peut-être remporter un trophée avec une équipe que je n'aime pas.
Oui,
y a eu ce dualisme en fait dans la saison entre le club doit rester en Ligue 1, surtout pour son avenir et ce qui se passe en coulisses avec le rachat, etc. Et puis d'un autre côté, peut-être que voilà, j'aimerais bien voir cette équipe de un peu d'ingrats, de fausses starlettes, les voir descendre aussi. C'est un petit peu dans le dualisme.
Ça s'est passé toute la saison parce qu'on a très vite compris, en tout cas les observateurs du club, les supporters, ceux qui connaissent le club par cœur et pas Ineos, donc ont tout de suite compris que ce club allait dans le mur. Et on l'a vu très vite que le mercato était raté, qu'on ne tirait rien de cet effectif-là. Et à l'époque, je me souviens de Jean-Pierre Rivère, ou même avant, quand on recrutait, dans toutes les conférences de presse, on a recruté un joueur, mais on a d'abord recruté un homme, avec des valeurs, avec des qualités humaines. Et de ce qui ressort du vestiaire et des infos qu'on peut avoir autour du vestiaire, c'est tout sauf un vestiaire uni, parce que des individualités, parce que des gars qui n'en font qu'à leur tête et qui se prennent certainement pour d'autres joueurs.
Depuis Julien Fournier ?
Depuis Julien Fournier, il n'y a plus de patron à l'OGC Nice. On fera le bilan certainement tout à l'heure. Depuis Julien Fournier, pour moi, il n'y a plus de patron à l'OGC Nice. Et c'est triste.
Il y a eu un manque de respect aussi vis-à-vis du gym en tant que tel. C'était le fil rouge un petit peu de l'année, Nico. Il y a eu Mofi, il y a eu Boguin, il y a eu Klaus aussi au début de saison. Grégory Lorenzi aussi, avec ce que Jean-Pierre Hivert nous a dit en zone mixte après le match. Abdi, évidemment, on l'a pas cité, qui est en ce moment en Tunisie avec sa sélection. C'est une saison où l'institution aussi au GC Nice a été bafouée du début à la fin.
Mais oui, parce qu'on va peut-être en parler plus tard, mais aujourd'hui au club, il y a des personnes qui se sont appropriées le club, l'identité, les valeurs, l'histoire du club, et qui font un peu ce qu'elles veulent, sous prétexte qu'elles n'ont pas forcément de pression d'un patron, parce qu'il n'y a pas de patron dans le club, on l'a dit. Et le problème, c'est que quand il y a ce manque d'autorité, ce manque d'exigence, de rigueur, forcément, ça va se retranscrire dans le vestiaire, sur le terrain. Donc, en fait, on parle beaucoup du ménage à faire dans l'effectif. Mais pour moi, le premier ménage à faire, il est dans les bureaux.
Oh oui.
Il faut absolument éradiquer toutes ces personnes qui n'en ont rien à faire de l'OGC Nice, qui sont très, très, très dangereuses. Et ça a été ça depuis le début. On a eu des échos, c'est hallucinant.
Oui, mais on nous a fait croire qu'en mettant deux coups de peinture à l'Alliance Riviera, mettant Mentalita Nissarda sur les murs, ça allait sauver tout le monde.
En réduisant la capacité aussi, ça c'était
oui, bien belle, sûr, évidemment.
Belle idée.
On pourra parler de Fabrice Boquet si vous voulez, mais ça fait partie des mauvais choix d'Ineos qu'on conduit l'OGC Nice à ce qui s'est passé cette année.
Quelque chose vous dit qui sera dans le conseil de classe dans quelques instants,
probable.
Dans la deuxième partie de Coupe Aiglon, qui, je vous rappelle, est rallongée d'une heure ce soir pour la dernière de Coupe Aiglon. À tout de suite, juste après la pub. De retour sur plateau de Coupe Aiglon pour revenir sur ce maintien du gym en Ligue 1. On retrouve autour de la table, toujours accompagné de Nico, de Seb Serrano, de Steph, de Maxime Tillette, pour bien faire le bilan aussi sur le terrain des joueurs et des dirigeants. C'est tout de suite dans les Top Flops. C'est parti. Allez Nico, on commence avec toi, les top flops de ce barrage retour. Il y a Antoine Mendy en top et Mohamed Ali Chaud, quelle surprise, en flop.
Antoine Mendy, parce qu'il ne fait pas tout bien, mais on l'a suffisamment répété tout au long de la saison. Il y a des erreurs, ok, mais il fait tout avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Et si 80% de l'équipe, voire même moins, avait le même état d'esprit que lui, on n'en serait pas là. Et puis c'est un garçon formé au club.
Qui va falloir s'appuyer, je pense.
Oh oui. Qui va, je pense, être rapproché cet été. C'est compliqué progresser. De le retenir, je pense, parce qu'il a quand même de belles qualités athlétiques. Mais en tout cas, il montre l'exemple et je trouve qu'il a pris de plus en plus de poids aussi au fil de la saison. Il s'est révélé dans des moments compliqués, ça en dit aussi long sur sa personnalité. Donc c'était important, je trouve, de le mettre en avant aujourd'hui.
Pour Mohamed Ali Chaud en flop ?
Parce que ses performances, elles parlent d'elles-mêmes depuis des mois et des mois. Et le simple statut de potentiel crack, ça suffit plus en fait à nous faire oublier à la fois ses performances insipides, mais aussi ses attitudes nonchalantes qui ne sont en aucun cas compatibles avec ce qu'on veut voir à l'OGC Nice. Ce qui me fait le plus peur avec lui, c'est qu'il a perdu totalement son football et dans les intentions, c'est devenu le néant.
Il se cache.
C'est-à-dire que c'est un joueur qui a besoin d'espace, qui a besoin de profondeur, d'aller au 1 contre 1. Et même quand il a un petit peu d'espace, il n'en fait rien. Il attend que les défenseurs reviennent pour aller sécuriser vers l'arrière. Et ça en dit long aussi sur la perte de confiance d'un joueur. Et je pense que le cycle à Nice est terminé, s'il a déjà commencé un jour. Et il va falloir s'en séparer rapidement, tant qu'il a encore une certaine valeur marchande.
Top et flop de la saison entière. On commence avec Kyle Boudache en top. Et ça, c'est une de vos grandes victoires, Nico, on peut le dire.
Ouais, c'est une propagande, carrément, on peut le dire. Après, Kyle Boudache, je trouve qu'on ne l'a pas assez vu pour le mettre en top. Mais c'est
il faut le mettre à l'honneur quand même.
Il faut le mettre à l'honneur et il faut même se servir de son départ là pour gérer de manière plus intelligente les jeunes sur qui on doit compter à l'avenir. Mais je trouve qu'il a aussi, à son échelle et à sa manière, changé un petit peu la saison du gym en apportant beaucoup de dynamisme devant, beaucoup de fraîcheur. Et je pense que c'était un joueur qui aurait pu tous nous faire chavirer à l'avenir à l'OGC Nice. Malheureusement, il s'en va.
Mais il fallait des gens au club pour mieux gérer son cas aussi. C'est ça le problème. Quand on dit qu'il faut changer à tous les étages, ça passera par là aussi.
C'est une preuve, effectivement. En flop, quelqu'un qui nous a agacé beaucoup cette saison, Morgan Sanson.
Parce que je trouve que c'est le joueur qui représente le mieux cette équipe sur la saison. Un cadre à l'agonie. Malheureusement, c'est dans une saison compliquée, quand il faut s'en prendre à certains joueurs, on s'en prend plus facilement, je trouve, au cadre. Et lui a été à côté de la plaque tout au long de la saison. Pourtant il n'a pas eu de blessure, hein, il a pu enchaîner, donc il n'a pas l'excuse du manque de rythme. Il a bénéficié d'une confiance aveugle de Claude Puel tout au long des six derniers mois.
Sa première décision, c'est de lui donner le brassard.
Et quand on voit, quand on voit les performances de Koulibaly, on se demande pourquoi il n'a pas été aligné plus tôt. Mais grosse, grosse déception de Morgan Sanson. 300 matchs en Ligue 1, il me semble, au compteur. On est en droit d'en attendre beaucoup mieux. Et pareil, je pense qu'il va falloir s'en séparer assez rapidement parce qu'on est arrivé au bout de l'histoire.
Max, le top de Saint-Etienne, c'est sur surprise Dante. Pour sa dernière.
Oui, pour l'ensemble de son œuvre, au-delà de ce match, même s'il n'était pas loin encore d'aller chercher un petit but, c'est malheureux parce que sur ces dernières semaines, à chaque fois, ça passe à pas grand-chose. Et bon, c'est comme ça, enfin, l'histoire est ainsi faite, ça se referme pour lui, pour ce premier passage, on va dire, à Nice, une décennie, c'est exceptionnel. Franchement, quand il a eu une période là, de 6 matchs, je crois, sans jouer, il revient. Où je me dis, bon, bah là, c'est assurément les derniers matchs de sa carrière. Est-ce qu'il va réussir à sauver le club ou au contraire à le plomber? Et franchement, j'étais pas très serein. Et pour le coup, force est de constater que face à Metz, c'est l'un des rares qui m'a rassuré. Et enfin voilà, certes, il est sur le troisième but de la finale face à Lens, où c'est lui qui l'a il a une mauvaise appréciation.
Avec une petite bachata de Maxime Dupé dans les buts aussi. Hein.
Aussi.
J'avance, je recule.
Et Sima qui va plus vite que tout le monde. Mais voilà, pour l'ensemble de son œuvre, voilà, il méritait une sortie. Un minimum digne pour toute sa carrière et son passage au club.
Il était à vos micros, Max, à la fin de la rencontre. On va l'écouter, Dante.
Ce soir, je veux vraiment savourer ce qu'on a fait sur le terrain. Dis à tout le monde, à le supporter, à les gens, les salariés du club, pour leur MSC énormément. Ils m'ont fait vibrer, ils m'ont rendu très heureux ces 10 ans. Je sais que je ne suis pas une personne parfaite, mais en tout cas, il peut être sûr que j'ai tout donné pour le club dès la première, la dernière seconde que j'étais là et que je les aime tellement, que ce soit les salariés, les supporters, toutes les gens, et que j'aime beaucoup le club. Et voilà, simplement du fond de mon cœur, dis un grand, grand merci.
On n'a pas le bon du Bayern.
Messieurs, si vous aviez un souvenir de Dante, de ces 10 ans de Dante à l'OGC Nice, quel serait-il? Les amis, rapide tour de table. C'est compliqué. Nico.
Son retour après les croisés, je pense. C'est le plus marquant parce que la force de caractère, elle définit le joueur et l'homme qu'il est.
Seb.
Son arrivée, parce que je me suis dit, waouh, on a acheté un joueur de foot, quoi. Ah, c'était génial.
Parce qu'il y avait aussi un petit peu de scepticisme aussi quand il est arrivé, en disant peut-être qu'il est sur la fin.
Ouais, le premier match, il est pas ouf. Mais moi, quand je vois qu'il signe, je me dis, enfin, c'est un message fort quand même. Tu vas chercher un mec avec une expérience comme celle de Dante. Il y a quand même des signaux positifs, et puis après, il n'y a plus rien à prouver.
Steph.
Moi, j'avais comme Nico, son retour après les croisés, on le pensait fini, il est revenu encore plus fort.
Le flop de Saint-Etienne de Max, ce sont les arbitres. Non, mais parce que c'était pareil que Seb, après les croisés.
J'aurais pu glisser aussi les larmes après Nantes ou Lens en finale de Coupe de France, mais c'est vrai que les croisés à Angers, revenir comme ça, c'est quand même très fort.
Bon, vous voulez pas, Max?
Pas de soucis.
C'est bon. Le flop de Saint-Etienne, c'est l'arbitrage.
Ouais, c'est... Oui, on en a parlé. On peut passer déjà, parce qu'on a déjà fait long
flop
là-dessus.
De la
flop de la saison, c'est l'arbitrage.
Flop de la saison, là, il y a pas mal de choses. Alors, en top, là, vous allez faire plaisir à Seb Serrano, vous m'avez mis en message. Rien. Donc là pour le coup c'est.
J'ai hésité aussi. Vous étiez à deux doigts de finir avec derrière.
Évidemment, je sais que ça
ne peut pas sortir. Éventuellement Wai. Mais c'est un cadeau du ciel parce que voilà, t'as la bonne inspiration, le bon contexte qui fait que tu peux l'attirer en prêt sous cette forme là et c'est lui qui te sauve. Mais mis à part ça, j'ai pas envie de faire un top pour faire un top.
Je pense que l'aiglon de la saison va être Antoine Mendy. C'est paradoxal parce que tu prends 154 buts dans la saison. Mais je trouve que lui est quand même sorti du lot.
Et il a du battre pour regagner sa place, et ainsi de suite. Mais franchement, ça ne méritait pas un top. Si l'été dernier, on se dit, on a par miracle la boule de cristal et on arrive à voir cette saison-là, on se dit, tout est catastrophique, il n'y a rien qui va. Et pour le coup, oui, on peut sortir. Il y a 2-3 têtes qui sortent du lot, mais globalement, je n'avais pas envie de sortir un top.
Max, Florian Maurice en
fait. Cette saison, elle est scalée. Alors, on tape souvent sur Ineos, mais tous les clubs sont dans des situations économiques assez compliquées. Nice peut-être un peu moins que certains parce que Ineos est malgré tout là. Alors certes, il faut plus vendre qu'acheter, mais il y a peu de clubs en Ligue 1 qui l'été dernier ont pu investir autant que ce que Nice a fait. Et sur les choix qu'il a eu à faire, il s'est majoritairement trompé.
C'est ça le problème, c'est qu'ils ont mal investi.
Mais oui. Parce qu'ils ont investi, mine de rien.
Mais, oui.
Mais ils ont très très mal investi.
Fianson, Carlos, bien ça sûr. C'est des 6, 10. Enfin, c'est, y a eu des sommes mises sur la table. Abdoul Samed aussi. Voilà, c'est. Et je pense aussi que quand le navire a tangué. Et c'était à lui aussi de s'imposer. Fabrice Boquet, je crois qu'on va en parler, mais il n'était pas là au retour de Lorient, enfin, pas où il fallait être à ce moment précis. Et derrière, c'est malgré tout Fabrice Boquet qui, dans le club et médiatiquement, fait passer la voix du gym, alors que ça aurait peut-être été à lui de dire et d'imposer sa pécu.
De la saison, on part avec vous, Seb, évidemment, Eli Wahi en top.
Ouais, même s'il a pas joué toute la saison, mais c'était normal. Mm-hmm. Sinon, j'avais. Alors, c'est plus pour le symbole, j'avais Opong aussi que je voulais mettre en avant, parce que pour moi, c'est pas pour mettre en avant le travail de Florent Maurice, je vous rassure tout de suite, qui est quand même sur le départ et je veux bien le déposer à l'aéroport.
On l'embrasse en tout cas.
Opong, on l'embrasse pas non plus. Opong, parce que je pense que c'est celui qui a le plus progressé dans toutes ces recrues qui n'ont rien apporté, Kevin Carlos.
Dans un contexte compliqué.
Janssen, contexte très compliqué.
Il s'en est sorti sur nager.
Même Van Hout a déçu, enfin. Je pense qu'Opong, c'est le seul qui a été sur la phase ascendante. Mmh. C'est pour ça que je l'ai mis en avant.
Flop surprenant quand même, Melvin Barr.
Ouais, parce que t'attends plus de Melvin Barr. Mmh. Et même si ça n'a jamais été Roberto Carlos.
Enfin, on l'a vu tellement plus haut sur ces dernières saisons.
C'est
et là,
ça, c'est une immense déception. En fait, flop, bien sûr que c'était facile. Mais Shaw, c'est pas un joueur de foot. Diop, c'est compliqué. Je veux même plus en parler. Donc je me dis qu'en si je choisis un joueur de foot, je choisis Barr. Et Barr, il m'a déçu, donc j'en attendais tellement plus que c'est un flop. C'est sévère pour lui, mais malheureusement, il a raté sa saison.
Steph, Antoine Mendy en top.
Sur la saison ?
Oui, sur la saison. Et Kevin Carlos.
La saison Mendy en top. Comme il a dit, Nico, tu as tout dit. Il s'est formé au club, il s'est investi, il a progressé. On voyait que sur les matchs, il sonnait un peu la révolte. Il a fait quelques erreurs de jeunesse, bien sûr, mais moi, c'est mon top. Je trouve qu'il a vraiment progressé, il va falloir s'appuyer sur lui. Et en flop, moi, j'avais dit. Le mercato en général, il a dit, on va dire Carlos, parce que pas un but.
Il prenait pas beaucoup de risques.
Ouais, mais il a l'air tellement gentil.
Alors franchement, il en a mis deux.
Il met ses tirs au but à Nantes.
Et c'était qu'on va se faire des barbecues avec Carlos. On va se régaler.
Si on vise un joueur de foot, parce que c'est pas un joueur de foot, Carlos le pauvre.
Attention,
il a raison.
Non, pour moi, ça serait Sanson en flop.
En vrai,
qui est un joueur qui a un passé, un vécu, qui a un Aston Villa, qui a joué à Marseille, qui a joué à Strasbourg. Et il n'a rien apporté cette saison.
Il a déçu Morgan Sanson. Voilà. On va se retrouver dans la troisième partie de Cop Aiglon pour parler de Geoffrey Moncada, le probable futur directeur sportif de OGC Nice. On se retrouve dans quelques instants après la pub. Restez bien avec nous dans la dernière émission de Cop Aiglon cette saison. A tout de suite. De retour pour la dernière partie de Cop Aiglon, toujours accompagné de Nico, de Seb Serrano, de Maxime Tillet, de Steph. Rebonsoir à vous tous. Dernier focus de la saison sur le prochain entraîneur de l'OGC Nice. Ils sont deux à tenir la corde actuellement. On en parle juste après ça. Alexandre Dujeu et Didier Digard sont les deux favoris pour reprendre le banc du gym. Quelques stats d'abord à vous proposer sur l'actuel entraîneur du SCO d'Angers, monté de Ligue 2 en 2024 et stabilisé entre la 13e et la 14e place de Ligue 1. Il a notamment révélé Esteban Lepaule, Sidiki Chérif, Imad Abdelli ou encore cette année Yacine Belhadine. Pour ce qui est de Didier Digard, il y a évidemment dans son CV le psychodrame Bâle en conférence Ligue il y a 3 ans. Nous y étions quasi, mon cher Sébastien. On était sur le plateau en tout cas.
Parlez pas, je suis en sous-traitement.
Mais place. Nicolas Pepe va mieux depuis. Oui, le traitement est terminé.
Beaucoup mieux, mais la rééducation a l'air sympa. Ouais.
Une 9e place avec le gym. Je suis en retard maintenant. Ce n'est pas gagné après le retour raté de Lucien Favre. Et puis deux saisons, vous l'avez vu, entre la 14e et la 15e place de Ligue 1 avec le Havre et deux maintiens en poche. Avec le co-plus petit budget de l'élite, avec qui, messieurs? Avec celui d'Angers. Justement, 25 millions pour les deux clubs. Il aura révélé Issa Soumaré, Rassoul Ndiaye ou encore Yacine Keshta. Messieurs, à choisir, plus du GE ou plus Digard? Je peux déjà vous dire qu'on a deux du GE, deux Digard, normalement, si j'ai pas de bêtises. Le camp du jeu, non, on a trois du jeu d'ailleurs. Ou non, quelqu'un
oui,
qui
joue du jeu. Bon. Vous voulez que je joue mon avis ou pas?
Ouais.
Genre, au début, je vous ai dit aucun des deux.
Aucun des deux. Bon, sur on le va bien revoir après. Alors.
Oui, allez-y.
On va venir revoir. Nico du jeu, Steph du jeu ouais. Et Digard pour Maxime Tillette. Et ben, on va commencer avec vous. On y va, le camp Digard avec Maxime Tillette.
Bon, il connaît le club. Très bien. Mieux que quiconque. Il connaît quelques joueurs, une partie du vestiaire. Il a eu une première mission qui n'était pas forcément évidente et qu'il a plutôt bien réussi. Derrière, les circonstances ont fait que les dirigeants à ce moment-là ont voulu aller chercher un Farioli. C'était une opportunité avec des relations avec les agents qui ont fait que. Donc il n'a pas pu enchaîner sur une deuxième saison malgré les bonnes choses qu'on a pu voir quand il a dû passer derrière Lucien Favre et redresser un petit peu le navire. Et depuis, en plus, ce qu'il fait avec le Havre, ça relève quasiment du miracle. Lui, j'associe aussi à cette réussite Mathieu Bodmer, évidemment, qui quitte le Havre. Donc, et au-delà de ça, je pense que... alors, j'apprécie aussi beaucoup Alexandre Dujeu et son travail, mais je pense que ce sera plus simple d'aller chercher Didier Digard au Havre, où un nouveau chapitre semble s'ouvrir, plutôt que Dujeu à Angers. Et en plus, le SCO veut garder Alexandre Dujeu.
Steph, la réponse avec Alexandre Dujeu pour vous.
Moi, je suis un peu comme Seb déjà. Moi, ça serait que de moi, je dirais aucun des deux. Moi, j'aurais bien aimé Genesio. Bon. Mais si je dois choisir.
Un petit manque de moyens,
Pep Genesio. Si ça serait à choisir, moi, je dirais Alexandre Dujeu parce que par rapport à son expérience avec les jeunes, voilà, on va être à un projet de reconstruction totale. Il faut repartir vraiment de zéro. Donc, Digard, il a fait une belle mission quand il a sauvé le club. C'est vrai, il ne faut pas oublier. Mais bon, j'aurais bien aimé Digard avec Bodmer, mais ça se peut pas être possible. Donc Dujeu pour les jeunes, pour son fond de jeu qui est pas mal, voilà. Quitte bon, à repartir à zéro, c'est
ça le potentiel jeu de mots aussi, c'est ouais. Sympa toujours.
Nico pour Dujeu. Dujeu. Ouais. Alors, Nico Dujeu, mais un petit Dujeu.
Alors déjà,
un Dujeu contrasté.
Tout ce qu'a dit Maxime est très vrai et je le partage à 100% sur Diga.
C'est souvent le cas.
C'est lui rendre très souvent le cas.
Non
mais moi sincèrement, le choix est difficile parce que j'aime beaucoup Didier Dugard déjà humainement et puis je trouve que comme l'a très bien dit Maxime, ce qu'il a fait au Havre, ça relève du miracle. Il connaît la maison et il a cette capacité à lancer les jeunes et il sait ce que c'est de travailler avec peu de moyens, donc d'aller le chercher c'est aussi un gain de temps par rapport à l'adaptation et c'est pas négligeable. Maintenant je trouve que Alexandre Dujeu, ce qu'il a fait à Angers, c'est formidable aussi parce qu'il faut pas oublier que cet hiver on lui a enlevé ses deux meilleurs joueurs, c'est Diki Chérif et Madabdelli. Il a continué à être compétitif, à produire un jeu très agréable qui a été loué à de nombreuses reprises par Roberto De Zerbi, par Luis Enrique, par des références en la matière. C'est quelqu'un qui est capable de valoriser son effectif, qui commence à avoir une expérience assez solide en Ligue 1, qui a beaucoup d'humilité, c'est un vrai bosseur. Moi, j'apprécie toujours ses discours aussi en conférence de presse d'après-match, où il parle essentiellement de jeu. Et je trouve que, dans ce qu'il dégage, ça pourrait aussi correspondre à ce nouveau projet à l'OGC Nice. Et puis, le côté superstition de faire revenir encore un ex, je suis traumatisé entre Lucien Favre et Claude Puel. Ce qui me fait pencher légèrement du côté d'Alexandre Dujeu.
Surtout que le SCO d'Angers s'est un peu arrêté de jouer après le 9 février, puisqu'ils n'ont gagné qu'une seule fois. Rendez-vous compte, ils étaient déjà sauvés quasiment le 9 février. Ils étaient 9e à cette époque-là, et puis après, ils ont laissé un petit peu passer.
Ce qui a permis à la direction de faire les grosses ventes et d'assurer le budget de la saison prochaine.
Absolument.
Et ce qui explique la fin de saison un peu ratée.
Seb, plutôt aucun des deux, pourquoi? Parce que vous auriez aimé plutôt un nom exotique ou vous n'aimez pas trop les entraîneurs qui connaissent trop la Ligue 1
exotique, c'est... Après, j'ai une curiosité sur Dujeu, j'avoue, parce que j'aimerais bien voir ce qu'il peut donner avec un autre effectif. Maintenant, est-ce que l'effectif de l'OGC Nice l'année prochaine sera largement supérieur à celui d'Angers cette saison? On n'en sait encore rien. On ne connaît pas le directeur sportif, même si on a des fortes présomptions. Sur Moncada, on en a parlé tout à l'heure. Mais quelles seront les réelles ambitions de l'OGC Nice et quels moyens il aura, quel effectif il aura? Parce que ce soit Digard ou Dujeu, il va falloir donner les bons outils cette fois-ci aux techniciens, parce que les derniers techniciens qui sont arrivés n'ont pas eu les bons outils. On leur a à chaque fois vendu quelque chose qui n'existait pas. Donc le problème, il est là aussi. Est-ce qu'il y aura un repreneur à l'OGC Nice? Est-ce qu'Ineos va, comme tous les ans, et merci pour ça, se contenter d'aligner pour passer la DNCG et point barre? Le chantier est immense.
De 50 millions, mais pas pour les transferts.
Non, mais d'accord, mais là, il faut tout raser. C'est-à-dire que là, ceux qui ont été coupables de cette saison et qui ont failli couler le club doivent partir. Ça commence avec Florian Maurice, Fabrice Boquet, on n'en parle plus. Il y a un énorme ménage à faire pour qu'en interne, il y ait des amoureux de l'OGC Nice qui s'occupent de ce club, mais des amoureux compétents. On va pas mettre n'importe qui. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Roger Ricord, il a fait du bon boulot, il a quitté le club en 2009, il n'est plus du tout dans le football. Qu'il ait un regard et qu'il aide Maurice Cohen, pourquoi pas?
Conseil sportif du président.
D'accord. Mais au bout d'un moment, il va falloir que cette saison serve pour la suite. On ne peut pas revivre ce qu'on a vécu là. Ce n'est pas possible. Et pour ça, il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Ce qu'Ineos n'arrive pas à faire depuis plusieurs saisons. Il se trompe sur toute la ligne. C'est nul. Tous les choix sont nuls. Donc au bout d'un moment, que ce soit du jeu ou d'Igar, peu importe, mais mettez-leur les bons outils, les bonnes personnes
mais
à côté pour travailler.
Depuis le départ de Julien Fournier en 2022, c'est à partir de là vraiment...
Mais je pense que moi, c'est le déclic. Et franchement, ceux qui me connaissent, et j'ai travaillé au club aussi, savent que Julien Fournier n'est pas mon meilleur ami. Et on n'ira pas prendre l'apéro ensemble. Mais pour moi, c'était au moins ce mec qui était respecté. Et quand il rentrait dans le vestiaire et quand il s'adressait aux salariés du club, on l'écoutait. Voilà. Ce qui n'existe plus à l'OGC Nice. Voilà pourquoi les joueurs font ce qu'ils veulent. Et voilà pourquoi dans le club... Bah, tout se passe un petit peu parce que voilà, ça doit se passer. Cet OGC Nice ne ressemble plus aux Niçois. Faut arrêter. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans cette émission, les supporters de l'OGC Nice, ils veulent pas Atem Ben Arfa tous les ans. Un joueur qui va mouiller le maillot, qui va se taper, comme on l'a dit, avec Mendy tout à l'heure et qui va montrer l'exemple et qui va rien lâcher, ça fait plaisir aux supporters et au final, ça marchera. Mine de rien. Des starlettes qui font trois jongles, qui poussent le ballon. Et qui court tête baissée, on n'en veut plus, c'est terminé. Donc maintenant, il faut structurer ce club sérieusement avec des gens qui aiment l'OGC Nice autant que les supporters aiment leur club. Sinon, on va droit dans le mur encore une fois. Et cette saison s'est passée, ça ne passera peut-être pas pour la suite.
Avec 15 joueurs qui sont sur le départ, on l'a appris via Nice Matin ce matin d'ailleurs. Max, grande évolution aussi au niveau des joueurs avec énormément de joueurs en fin de contrat. Des joueurs aussi
les
qui
prêtés,
ont une petite valeur marchande encore.
Oui, il y a surtout ceux qui ont aussi des gros salaires encore qui n'ont pas le rendement escompté et qui équivaut à leur revenu. Les fins de contrat, les joueurs prêtés, les joueurs qui déçoivent, les joueurs qui viennent d'arriver et qui ne se sont pas acclimatés, les joueurs qui sont là depuis un moment, qui sont censés avoir un certain niveau mais qui ne répondent pas forcément présents. Donc le chantier est colossal. Et donc c'est bien aussi de pouvoir repartir de la feuille blanche, mais au premier sens, ça va être le cas à tous les étages. Et donc, c'est bien de pouvoir insuffler vraiment totalement quelque chose. Et sur ce que disait Seb à propos de Julien Fournier, qui tenait un petit peu l'institution, on va attendre aussi de Geoffrey Moncada ça. Lui qui vient, il a fait 6-7 ans du côté de l'AC Milan, qui est un... c'est un club, une institution, un club légendaire, mythique, qui est une image très forte et qui est respectée. Et on attend qu'il arrive pour imposer ça aussi du côté de l'OGC Nice.
Nico, on garde qui cet effectif ?
Pas grand monde, malheureusement, parce qu'entre ceux qui vont vouloir aussi partir parce qu'ils sont à moitié traumatisés de ce qui s'est passé cette saison, ceux qui ont peut-être aussi un bon de sortie, le chantier il est même plus colossal là. C'est immense ce qui va se passer à l'OGC Nice. Point positif que je retiens, c'est que on va être obligé et contraint de laisser la place aux jeunes, et je vous assure qu'il y a de la qualité au centre de formation et qu'il y a plein de jeunes qui attendent juste d'avoir un petit peu de confiance, d'avoir un petit peu d'espace pour s'exprimer. Je pense à Denasim Larèche par exemple, à des Télusson devant, il va y en avoir d'autres aussi, Djibril Koulibaly, Junior Monza,
c'est pas dit qu'ils sont d'ailleurs.
Exactement, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc aussi que le cas Kyle Boudache nous serve de leçon, qu'on fasse de la place à ces jeunes, parce que l'OGC Nice a eu un gros retard dans le passé sur, on l'a déjà dit ici, mais sur la capacité à accueillir des jeunes à fort potentiel. Aujourd'hui, on est capable de le faire. Maintenant, il faut les développer, leur faire de la place, et ça va faciliter beaucoup de choses. Et les garder.
Steph.
Oui, Michel. Non, mais tout a été dit. Moi, c'est une très bonne nouvelle. Ce que disait Maxime, la feuille blanche, elle est parfaite. Et ce qui est rassurant, c'est que le gym travaille. Voilà. Là, on s'est aperçu qu'il y avait une prise de conscience. Il y a eu ce courrier envoyé aux supporters, aux suiveurs du club aussi, en mea culpa, qui n'efface pas tout, parce que c'est ce que j'ai communiqué un peu là-dessus. On efface tout, on n'oublie rien. C'est là où ça doit servir. On efface, ok, ça a été terrible. Maintenant, cette feuille blanche, il faut la remplir correctement. Ok, le mea culpa, il n'y a pas de souci. Il y a eu des ratés à tous les étages. Tous les étages. Mais maintenant, de voir que Florian Maurice s'en va, que Moncada va arriver, et qu'on se met au travail tout de suite, moi, ça me rassure quand même.
Et qu'on se met au travail avec ou sans rachat. Parce qu'on pourrait dire, on attend le rachat, on n'anticipe pas le cas où on n'est pas racheté. C'est rassurant aussi
de
voir
des... pas de nouvelles du rachat avant ce sera pas tout de suite effectivement. Dernier mot Steph sur de cette vraiment vous avez le dernier mot la dernière
sur quoi,
journée
sur la saison Pégalo. Sur la future saison
ce que vous voulez.
Non, moi j'aimerais dire ce qu'il a dit Seb, qui a très très bien résumé. Il faut que cette saison qui a été catastrophique pour les supporters, pour tout le monde, on a commencé par une première de Ligue des Champions,
un barrage
de Ligue des Champions, on finit avec un barrage pour pas aller en Ligue 2. On s'est maintenu. Heureusement, on a sauvé l'essentiel. Il faut que ça serve de leçon. Il faut qu'on reparte vraiment, qu'on mette les bonnes personnes au bon poste et qu'on reparte. Même si on vise la 10e place l'année prochaine, qu'on soit humble, mais qu'on construise petit à petit, quoi, qu'on reparte à zéro.
Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné pour ce dernier épisode de Coop Aiglon. Merci également à tous les chroniqueurs qui sont succédés tout au long de la saison sur ce plateau, supporters, journalistes aussi et anciens footballeurs. Merci à vous de nous avoir été fidèles tout au long de la saison. La technique aussi, la régie, la réal, avec évidemment l'immense Stéphanie Mossmann qu'on ne présente plus.
Il ne faut plus la présenter.
Marcher dans la rue, vous verrez, les gens s'arrêtent.
Hein. Stéphanie Mossmann,
Mossmann. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée, juste après la première journée de championnat d'ici. Là, bah, c'est un très très bel été. Bonnes vacances, Issa Nissa, évidemment. Et puis moi, je vous laisse avec le sujet multisport pour conclure cette émission. Très vite.
Bah, bravo Samuel Prosimo.
Ne serait-ce que pour l'élégance.
Bravo. À l'année prochaine, à la saison prochaine.
Le Stade niçois retrouve la Pro D2. Un an après sa relégation en National, l'équipe azurène a validé sa montée après sa victoire en barrage sur la pelouse de Mont-de-Marsan. Nice Rugby s'impose 31-26, un succès obtenu en fin de match sur un essai inspiré de Tyler Morgan à la 73e minute. C'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe de 3e division remporte son match d'accession face à un club de Pro D2. Le zéro pointé de Fabio Quartararo au Grand Prix d'Italie ce week-end. Le pilote niçois n'a marqué aucun point, 14e du sprint samedi et seulement 18e de la course dimanche. C'est l'Italien Marco Bezzecchi qui a triomphé devant son public. Un Grand Prix auquel Juan Zarco n'a pas participé, lui qui avait subi un grave accident en Catalogne il y a 2 semaines.